Ben, on changera pas. Promis.
Boulevard 102.1.
Bienvenue dans l'Open Mic. L'Open Mic avec Marceau et Audrey Pinchot. Un Marceau tout seul, c'est correct. Open mic, open mic. Un Marceau bien accompagné, c'est tellement mieux.
Ah là 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 là, 10h bien pile, l'Open Mic commence. Jeudi, déjà. Il me semble que je suis fébrile aujourd'hui.
Juste aujourd'hui?
Ah, mais cette semaine en général, mais tu sais, quand la semaine commence puis c'est la dernière avant les vacances, on dirait que t'es fébrile, mais tu sens qu'elle va être longue.
Ok, tu savais qu'il y avait du pain sur la planche.
Mais là, il en reste comme une. Ben mettons deux en réalité, mais quand la journée est entamée, là, il nous reste vendredi, mettons.
Le pain sandwich est sa fin.
Genre!
Mais il est bon!
Oui!
La finalité, c'est comme si on savait qu'il allait plus en avoir après, fait qu'on le savoure encore plus.
Je trouve ça exceptionnel comme sentiment. Je sais pas si vous le ressentez, je sais pas comment ça se passe de votre côté. Est-ce qu'il y en a qui se sont calés des vendredis? Tu sais, il y en a, là, qui veillent de vacances, là.
Regarde sur leur ancienne en ce moment, direction nord, là. D'après moi, il y a une couple de vendredis, une couple de personnes qui sont descendues peut-être de certaines régions pour se rendre vers leur famille, justement. Puis c'est un peu moins le fun, je pense, pour ceux qui sont dans les camions, que je vois que c'est bloqué, mais... Mais quand même.
Ça... Tu vois, t'en parles, je vais prendre le temps rapidement. Là, il y a un ralentissement, effectivement, sur Laurentienne. Direction nord, oui, mais direction sud aussi. C'est à l'approche de la capitale en passant dans la bretelle carrément pour aller chercher la capitale direction ouest. Pour l'instant, c'est pas mal les seuls problèmes qu'il y a sur les routes. Là, évidemment, quoi que ce soit d'autre, vous vous gênez pas. C'est le 418-971-1021. J'en profite rapidement pour vous dire qu'on est chanceux comparé à hier. Le soleil qui semble vouloir se pointer le bout du nez. Quelques nuages ici et là, mais quand même... On a la clarté dans le ciel. C'est un moins 3 en ce moment à Québec, maximum de moins 2. Faible neige intermittente plutôt pour la journée. On est à moins 15 cette nuit. Ça drop, là. Ça, c'est le Québec, hein? Bienvenue. On passe de 0 à moins 15 à 3 degrés. Demain, ce sera du moins 8. Alternance de soleil-nuage également. Pour ce qui est de samedi, un peu plus nuageux avec moins 8. Par contre, dimanche, lundi, mardi, on est dans le gros soleil. Pour ce qui est de dimanche, c'est du moins 10. Lundi, on sera à moins 14. Pour la veille de Noël, ce sera du moins 7 avec du soleil également jusqu'à maintenant. Et pour le 25, Environnement Canada nous prévoit des petits flocons pour le moment. Bon, il faut dire qu'on ne peut pas toujours se fier à ce qu'Environnement Canada nous dit, là. Mais mettons qu'en ce moment, on vit dans un petit monde féerique puis qu'on se permet d'y croire, c'est des belles températures quand même qui s'en viennent prochainement. Pascal CV, vous l'avez entendu, elle m'accompagne jusqu'à 11h30. Je m'appelle Audrey Pinchot. Vous êtes officiellement dans notre folie de l'Open Mic. J'espère que vous allez bien. Le 418-971-1021, ça, c'est le texto pour nous rejoindre. Il y a le 780-1021, ça, c'est le numéro de téléphone. Vous ne vous gênez pas. On est assez parlable, je pense, là.
C'est rare que le monde appelle. T'sais, j'ai connu des années où le téléphone, là, il fallait quelqu'un
vraiment
qui travaille juste sur le téléphone pendant le show.
Là, il faut comme qu'on tire. Il faut là, qu'on vous tire les verres des oreilles pour avoir un petit salut, pour être capable de vous jaser.
Y a-t-il quelqu'un qui veut nous appeler d'un
coup?
Oui,
appelez-nous donc un matin. On a le goût de jaser. 88-780-1021, n'importe qui, là. On doit avoir des troqueurs sur la route qui écoutent la radio. Qui...
N'importe qui de convenable. Là.
Oh, oui, on aimerait parler du bon monde
pas une
quand même.
Convenable. Abstenez-vous.
Fait qu'on attend vos appels au 88-780-1021. Il y a le Twitch aussi, vous ne vous gênez pas. Le Twitch, c'est le twitch.tv, BLVD, barre en dessous, FM.
Il y en a qui répondent à l'appel.
Ah, ça, c'est le fun. Quelqu'un bon matin. Bienvenue à Boulevard. Allô?
Allô?
À qui on jase?
C'est Kim.
C'est Kim. Kim, bon matin, comment ça va?
Ça va bien, vous autres?
T'as l'air convenable, Kim, on aime ça.
Qu'est-ce qui t'a poussé à nous appeler un matin?
Ben, parce que vous oubliez qu'on vous appelle.
Tu t'es dit, ils font pitié, on va donner un coup de main.
Non, j'ai flushé Kim.
T'as flushé Kim?
Je suis tellement désolée. Kim rappelle, mais c'est parce qu'il y avait...
Pascal CV!
Je suis pas très bonne là-dessus. Regarde, il y a quelqu'un d'autre en attendant.
J'entends mais la conversation. Pauvre Kim!
Elle est fine, elle est là. Elle est convenable, elle appelle, je la flush.
Plug-moi la deuxième personne.
OK, j'espère pas la flusher.
Essaye de la garder. Est-ce qu'on a quelqu'un au bout du fil ou Pascal le flushé? Allô?
Non, il y a quelqu'un!
Ton nom, c'est quoi?
C'est Cassandra.
Cass, mon Dieu, bon matin. C'est belle fun de te jaser. Qu'est-ce qui te pousse à appeler? T'as-tu quelque chose à nous raconter un matin?
Ben non, vous vouliez du monde qui appelait puis vous parliez de croqueurs sur la route. Ben, c'est mon cas.
Oh, ouais! T'es camionneuse.
Là, je suis en direction de Trois-Rivières, mais je vais retourner dans le trafic de Québec dans pas longtemps après.
Yash! C'est quoi ta route aujourd'hui?
La livraison de décors de théâtre à Trois-Rivières. Fait que je m'en vais livrer ça au Musée Pop de Trois-Rivières pour des expositions sur les jouets. C'est super mignon pour le temps des fêtes.
Oh, c'est bien.
Et après
fou,
ça, ben, on retourne en Québec et on fait des petites livraisons tranquilles à Québec.
C'est quoi la livraison la plus étrange ou anecdotique que tu as eue à faire?
Étrange en quoi, excuse-moi?
Ou anecdotique, tiens.
Mon Dieu, je dirais que la plupart du temps, les plus étranges, c'est vraiment à cause des clients en tant que tels. Il y a des gens que tu te rends comme pas compte sur le coup, mais c'est vraiment des spécimens. Puis, pour part de là, c'est comme, oh mon Dieu, qu'est-ce que je viens de vivre?
Le monde est weird, hein?
oui, vraiment. Puis particulièrement depuis la pandémie, ça a vraiment grimpé là, le niveau de weirdness du monde. Là, on dirait que le monde a plus weird.
Hé, hey, t'as remarqué ça pour vrai dans ton quotidien? Parce qu'on remarque que les gens sont plus impatients.
Vraiment, en livraison, là, c'est impatient sur la route, la rage au volant. C'est vraiment intense là, comment ça a changé depuis la pandémie.
Hé, hey, mon Dieu, on dirait que j'aime ça que tu nous le confirmes parce que c'est une impression, je pense, qu'on partage à la gang.
Ouais.
On le ressent comme automobiliste, mais tu sais, nous autres, je veux dire, on est bien juste sur la route pour aller au travail. Là.
Encore ce matin, j'ai l'impression qu'il y avait. Moi, je les appelle mes conducteurs sur le café Baileys, là, rendu à ce temps-ci de l'année, là, mais il y en avait quelques-uns.
Ouais, il y en a qui se demandent si ils sont vraiment en bon état d'être sur la route.
Oh mon Dieu, Cass, est-ce que tu travailles beaucoup pendant le temps des fêtes ou tu as un petit break?
On a des petits breaks le 25-26, probablement le 1er puis le 2, mais le restant, ben on travaille. C'est pas mal un travail essentiel, les trucks, fait que pas le choix.
On va t'accompagner certainement à Boulevard. Tu viens de flusher, Cass.
Non, c'est parce que tu...
Tu viens de flusher.
C'est parce que tu allais peser là. Fait que je me suis dit... C'est pour ça que j'ai dit, mets-le sur la tente de ton bord avec des grands signes.
On peut pas aller au téléphone, dans le fond, on l'a pas partout.
Mais qu'est-ce que tu voulais faire?
Je voulais te la mettre sur l'autre ligne. On a perdu Cass, on a perdu Kim.
Mais c'est ça qui flush. Moi, je pense que c'est anormal ce qui se passe. Il y a quelqu'un. Salut, c'est qui?
Allô, c'est Kim. Okay.
Okay. Si ça sonne de ton bord, mets-le sur la tente, OK? Je vais être comme...
Kim, en rappelle! Kim, on est tellement désolés.
C'est tellement pas grave.
On fait vraiment notre possible. Un petit message à Cass, à qui je vais te poser une question de son temps des fêtes. Tu peux rappeler, Cass, hein? On va être là, on va essayer de te plugger. Kim, tu fais quoi comme job?
Ben, je suis camionneuse, moi, avec.
Arrête! C'est ben fun! C'est quoi ta run à ma tête, toi?
Ah, ben moi, je roule dans le quartier Saint-Malo. Moi, je vive du LTL, de marchandise générale, de n'importe quoi.
Tu l'as?
Ah, j'ai flushé Audrey.
Tu l'as remarqué, toi, l'impatience sur les routes? On avait Cass tantôt qui nous disait que c'était fou depuis la pandémie.
Oui, l'impatience, puis du manque de savoir-vivre, on dirait que le monde s'affiche au fait.
Ah, oui, c'est carrément ça.
Tu vois vraiment la différence, hein?
Ah, moi, je vois le quartier Saint-Malo, je vois un peu dans Basseville, là, puis c'est l'enfer.
Là, on a sûrement Cass en passant sur l'autre ligne.
Tu veux-tu à plugger? On a deux lignes en même temps. Amène Cass avec nous.
Celle-là?
Oui, vas-y. Okay.
Maintenant, je pèse là-dessus.
Tu pèses sur le on, tu montes la slide. Est-ce que c'est Cass qui est là? Faut que tu plugues.
Je pèse dessus avec la flèche?
C'est la ligne différente, oui.
OK, c'est sur celle-là ici, regarde-moi. Si je prends la colonne de gauche, là, c'est la colonne de droite.
Exactement.
OK, on fait un essai.
Est-ce qu'on a Cass avec nous autres?
Ben oui!
Tabarnouche!
Puis on a encore Kim!
Oui!
Ah! C'est donc ben le fun! OK, on y va une à la fois. Cass, j'avais pas terminé ma question. Tu me disais donc que tu travaillais pas mal dans le temps des fêtes.
Ouais.
Fait qu'on a Boulevard qui va pouvoir t'accompagner. Une belle programmation d'ici le 6 janvier. On va être de retour. Je voulais, avant de te flusher, prendre le temps de te souhaiter un bon temps des fêtes.
Oui!
Parce que je trouvais ça impoli.
Merci,
qu'on n'ait pas pu t'en parler.
Merci à vous autres aussi. Puis je vous traîne tout le temps avec l'application en truc.
Ah, oh,
c'est cool, merci.
Ben passe un beau temps des fêtes, Cass, bonne journée.
Merci à vous autres aussi.
OK, Kim, on a flashé une conversation beaucoup trop tôt. Je veux savoir, ça ressemble à quoi, toi, ton temps des fêtes?
Ben moi, je suis en congé pendant les deux semaines. Ça va
Fait que demain, c'est ta dernière, toi aussi, là?
Oui.
As-tu des gros plans?
Non, pas en tout, ça va être bien tranquille.
Ah, chanceux.
Les deux pieds sur le pouf. Il faut que tu écoutes mon sapin, le sapin à des boules avec, genre, je sais pas moi, un bon café belay, justement, vu que tu seras pas sur la route.
C'est bon, on va faire ça.
Eh bien, Kim, profites-en avec la famille aussi. Merci d'être à Boulevard en passant. Merci d'avoir appelé, on se sent moins seul ce matin. Je m'excuse pour Pascal, là.
Les textos me font tellement rire.
Elle fait ce qu'elle peut, là.
Je suis désolée.
C'est les vacances qui approchent, la fatigue qui embarque.
Je suis désolée. Salut, Kim.
Hey, bye-bye.
Oh mon Dieu, qu'on a du bon monde. Hey, c'est le fun de textos. Vous jaser.
Il y a Richard qui nous dit, voyez-vous pourquoi on vous appelle pas? Tu nous coupes la ligne quand on appelle.
Là, je comprends ce qui se passe. Là, je comprends totalement. Je vous forcerai plus. Oublier le 780-101. Textez-nous à place, c'est plus facile.
Quelqu'un qui dit, Pascal, tu flushes les appels comme tu flushes les dates, je suis certain. Quelqu'un d'autre qui dit, tabarnak, Pascal, ça va pas.
Non. La fin de la semaine est vraiment trop. T'as-tu pris un petit café Baileys, toi, maintenant? C'est ça le problème?
Non. Puis le pire, c'est que d'habitude, c'est moi qui aide Yannick. C'est super malaisant, ce qui
arrive. Moi, je trouve ça bon, là. Je veux qu'on fasse un petit parallèle, oui. Pascal, sur une discussion qu'on a eue hier sur les cadeaux.
Oui.
Les cadeaux qu'on peut recevoir, les cadeaux qu'on peut donner, ça vous avait fait tellement réagir par texto, par Twitch. Et toi, qui es une fidèle du marketplace, t'as déniché une coupe d'affaires.
Ben, je trouvais que l'année 2024, rendue au 19, s'achève tranquillement, puis c'est ça, Noël s'en vient. Fait que j'ai décidé sur mon Instagram, je t'ai dit de pas y aller.
J'ai rien vu.
Des petites trouvailles, des petites suggestions. On va faire ça ensemble, on va y aller quickie, juste pour le fun. Regarde-moi ça, toi, les beaux duos de Salière. Ça m'a ramené aux années 80, 90, où absolument presque tout ce qui était dans la vaissellerie était en forme d'animaux.
Oui.
Je sais pas pourquoi, en tripétant sa ferme, mais c'était problématique. Là,
c'est
vois?
Quoi? T'as des poules?
T'as des poules, des coques, t'as un mouton, des chats. T'en as pour tous les goûts. Là.
Pour tous les goûts. Oui. Et c'est vendu sur Marketplace pour seulement 10 $ le lot.
Oui, 4 paires de salières et poivrières vendues en lot, par exemple. Tu peux pas juste choisir un des deux. Salières, que c'est populaire, ça, cette année, ma belle Audrey.
C'est intéressant parce que tu te dis pour les espèces de cadeaux recyclés, ça t'en fait 4 déjà de régler.
C'est un bon deal. Là. Mais si tu veux quelque chose de peu plus haut de gamme, regarde, salière et poivrière encore. Je te dis, ça, c'est comme deux moineaux qui ont le bec ouvert.
Mais les inséparables.
C'est des inséparables, ça?
Oui, c'est des inséparables.
Excuse-moi, mais ça repousse un peu toute imagination que j'aurais pu penser pour agrémenter vos repas, là, très
c'est
honnêtement.
Ça s'embrasse.
Sinon, ça en va un petit peu plus loin. Et les oiseaux, décidément, c'est un hit pour Noël. Tu as des créations qui ont l'air de créations d'enfants qui sont vendues à 130 $, mais c'est en rabais. Ça valait 165. Je vais vous montrer sur Twitch.
Oh mon Dieu, OK, il y en a qui ont des enfants artistes.
Je pense que c'est un adulte qui le fait. Regarde la grosseur de la main. C'est peut-être bien un pied qui la tient, là, en passant.
C'est tellement gênant. En passant, ça, achetez pas ça, hein, je veux dire. Vous demandez à vos enfants de vous en faire. Là. Nous autres, le sapin à la maison, il est rempli de ces bébelles-là. Ça vaut pas 160 $. Là.
Sinon, t'en as qui savent vraiment vendre leurs articles. Tu sais, un sac de randonnée. Mais l'homme qui le vend, j'ai vu tes yeux, l'homme qui le vend a décidé qu'il avait pas besoin de mettre de chandail en dessous
et
pour
présenter. Et je lui conseille, pour le temps des fêtes, un rendez-vous en épilation laser triton chez Vivant.
Vivant, hein, oui. C'est sûr que c'est... Oui.
Ça, le monde est tellement pas gêné.
Comment elle
est
pas à l'aise, cette
ça,
pine.
Là. Non, mais les gens sur Marketplace, quand vous vendez des affaires, c'est un petit conseil d'amis vraiment simple. Là. Utilisez-vous pas.
Comme modèle?
Mais non, mais c'est épouvantable. Il y a des gens qui oublient qu'ils prennent des photos, mettons, dans la salle de bain, t'as des affaires malaisantes en arrière sur le comptoir.
Oui.
Il y a des gens qui sont à moitié à poil, qui se rendent pas compte, qui... Prenez le temps d'installer votre objet pour qu'il soit mis en valeur.
Demandez une approbation de gens que vous aimez puis que vous trouvez qui ont un sens dans la vie, qui ont un certain jugement. Celle-là, c'était plus ou moins bon. Il y a aussi 4 bouteilles vides à vendre en verre de 750 ml d'une marque de gin, mais la personne a tout bu de gin à l'intérieur des bouteilles.
Ah, c'est pour une décoration.
Elle vendait ça 40$, elle l'a réduite à 30.
Ah, ben
si
oui.
Si jamais ça vous intéresse, c'est juste triste pour ton oncle alcoolique, tu sais. C'est un message.
Hey, les gens, là.
Ça, j'aurais jamais cru voir ça. Tu sais, les Monsieur Patates, les Madame Patates de ce monde, là.
Oui.
Bien, c'est bien populaire auprès des enfants. Il y a quelqu'un qui a décidé de prendre deux pétacs, des vrais pétacs, et d'enfourner des pins à babillard pour faire des yeux, un nez, une bouche. Puis il vend ça, sacrement. Et il vend ça 40$, mini Madame Patate de collection.
Mais ça, c'est une blague, là. C'est J'espère. Sûr qu'il y a des gens qui font des... C'est triste, en fait, parce que c'est un constat d'à quel point on a peut-être un peu trop besoin d'argent.
Oui, puis moi, le malheur avec ça, c'est que j'ai le goût de les acheter. Paquet de croûtes séchées, une première. J'ai l'impression que c'est le genre de traiteur, dans un endroit qui fait du traiteur, qui a arraché toutes les petites pots de croûtes, là, qui a mis ça dans des sacs, puis s'est dit, un passionné de chapelure pour...
va vouloir les utiliser.
Mais c'est d'immenses
Mais c'est
sacs.
Pas fou, ça, par exemple.
Tu me niaises.
Mais non, mais tu mets ça au blender, là.
Ben oui, mais pas, t'achètes pas ça de n'importe qui. Ben, hey, c'est des sacs blancs, là, avec un élastique au bout. On dirait des sacs poubelles pleins de croûtes de pain.
C'est louche. Pour 7 $, c'est très louche.
C'est beaucoup. J'irai avec des vieux épinards. Il y a quelqu'un qui vend ça.
Mais voyons donc.
Peut-être qu'elle n'avait pas le temps d'y passer à temps.
Fait qu'elle $1
Si t'as un pot-luck à gérer, c'est pas cher, pas cher.
Quoique des épinards, c'est rendu vraiment cher. Fait qu'à une pièce, j'y penserais. Honnêtement, j'y penserais.
Puis mon dernier, non le moindre, je vais te laisser le décrire.
Tu veux que je le décrire?
S'il te plaît.
Mais que c'est ça? Tige. Oh non, 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 ça c'est dégueulasse. Ah non.
Il va falloir qu'on me l'explique, celle-là.
Non, il y a quelqu'un qui vend ses tiges de. Tu sais, des dreads pour les cheveux, là.
Des rastas.
C'est quoi des dreads, des rastas? 100% naturel. C'est encore pire. Tiges vendues par lot de 80, il en faut environ 80 à 160 pour une tête.
Ça veut dire quoi? Ça veut-tu dire des gens, tu sais, comme un peu des rallonges, se font.
Ben, c'est comme si je me coupais les cheveux puis je vendais ça sur Marketplace.
Oui, mais ça, c'est très sale. On se rappelle que quand tu as des dreads, quand tu as des rastas, tu peux pas les laver.
Mais non.
Tu sais, moi, une de mes expressions préférées, c'était aussi mêlé que mon cousin qui porte des rastas depuis son voyage au Costa Rica il y a 6 ans. Tu sais, ça...
Ah, j'achèterais pas ça pantoute, moi, je ferais pas confiance à ça.
C'est une pièce.
C'est épouvantable. Non, mais ça, c'est plein de bactéries. Vous achetez pas ces trucs-là.
Alors voilà les suggestions de cadeaux de Noël sur Marketplace. Vous allez économiser, mesdames et messieurs.
Il y a quelqu'un qui nous dit, il y a un gars qui vend ses amis sur Marketplace. Oh, c'est original.
Oh.
Il y a quelqu'un qui nous dit, j'ai déjà essayé de vendre mon vieux sapin naturel après les fêtes.
Oh, joke!
Je serais curieuse de savoir, Louis, si ça a fonctionné. Parce que déjà, peut-être qu'il aurait pu acheter ça pour, tu sais, les feux, pour le bois. Pour,
oui.
Ça aurait pu marcher, là.
Mais tu sais que mon gros lutin lettre qui est au coin de ton bureau, je l'ai acheté sur Marketplace parce que je pensais que c'était quelqu'un qui le vendait en joke. Je l'ai encore. Et je te rappelle, j'ai payé 150$. Fait que je pense que quelqu'un...
J'en ai pas que t'as payé pour ça, par exemple. Je tiens à te le dire. Ta santé mentale me fait douter depuis ce moment-là.
Moi, je pense qu'elle est encore meilleure qu'on pense. Justement parce que je suis capable de rire de peindre
des affaires. Mais c'est une bonne folie. On va se le dire, c'est une bonne folie. Hey, je veux qu'on prenne quelques minutes pour jaser de films.
Oui.
Je t'annonce, là. J'en ai glissé un mot hier dans Gravel dans le retour, mais c'est quand j'aime de quoi, là, j'harcèle les gens avec ça. Et j'ai écouté un sacré bon film dans les derniers jours sur Netflix. C'est un film de Noël, mais c'est pas un film de Noël. Ça se passe dans le temps de Noël, mettons.
Genre de Die Hard?
Genre, si tu veux. Puis le pire, c'est que j'ai seulement vu des scènes ici et là de Die Hard. Je l'ai jamais écouté au complet, là, sacrilège. Là. Mais j'ai entendu dire sur Internet que ce serait le prochain Die Hard. Du genre, c'est meilleur que. C'est sûr que je l'ai pas vu, fait que là, avant de me lancer des patates, là, je peux pas faire le comparatif. J'ai écouté dans les derniers jours que Carry-on. Est-ce que ça dit quelque chose?
J'ai vu la pub passer. J'ai fait un screenshot quand je l'ai vu, mais je ne l'ai pas encore écouté.
Ça doit faire une semaine et demie même pas que c'est sorti sur Netflix. C'est un film dans lequel tu retrouves Jason Bateman, tu retrouves Taron Egerton aussi, qui joue le personnage principal. Sophia Carson, elle commence à être pas mal présente dans les films, surtout sur les streamings de ce monde-là. Elle a joué entre autres dans Purple Heart, super bonne actrice. Et c'est un film vraiment thriller action. L'histoire est très, très simple. C'est un gars qui s'appelle Ethan, qui est en couple avec Nora. Eux travaillent au même endroit, c'est-à-dire dans un aéroport. Elle est comme directrice des opérations.
Ça, c'est le fun.
Lui, ben vraiment.
Les films là, dans les aéroports, ça menait à malheureusement beaucoup de romances fantasmagoriques dans ma tête.
Ouais. Non, mais je te comprends totalement. On rêve tous de ce moment-là.
J'ai le goût de travailler dans un aéroport pour voir plein d'histoires, rencontrer plein de monde. Et finalement, tu travailles de 6 heures le matin à genre 3 heures le matin.
C'est pas si
le
hot
matin,
que ça.
Le lendemain, c'est pas si hot que ça.
Donc, ces deux-là sont en couple. Nora est enceinte d'un bébé. C'est comme ça que commence le film. Et ils se dirigent à leur corps de travail la veille de Noël pour aller aider le monde puis faire leur job, tu comprends? Puis ils sont pognés pour travailler cette année-là. Lui est un jeune agent de sécurité, rêve de devenir policier, n'a pas réussi, fait qu'il prend sa job bien au sérieux, tu comprends?
Il se donne un peu plus de fonctions qu'il en a.
Il se donne vraiment. Et l'histoire commence où il est à vérification des bagages, puis à un moment donné, il y a une fille qui lui donne un bac puis qui dit « Hey, ça, c'est pas à moi. » Il prend le bac, il reçoit un texto, puis le texto, il dit « Mets l'oreillette. » Et là, tout commence. Il y a un homme dans l'aéroport, un espèce de mystérieux passager qui a comme mission de faire passer une valise dans laquelle t'as un gaz, en fait, qui va tuer des gens dans la dite avion dans laquelle elle est censée se rendre. C'est 250 personnes qui doivent mourir ce soir-là.
Selon qui? Selon lui?
Selon la mission que lui s'est donnée. C'est un peu terroriste, ses bords, là.
Clairement.
Et là, Ethan, le personnage principal, tu comprends qu'il veut rien savoir de faire ça. Mais là, le deal n'est pas compliqué. Soit c'est ces 250 personnes-là qui crèvent dans l'avion, soit c'est l'aéroport au complet. Fait que tu as un choix moral à faire. Et il n'y a pas le choix de garder l'oreillette parce que s'il l'enlève, ben sa conjointe enceinte va mourir.
Fait ben voyons.
C'est une affaire de sniper, c'est un film d'action, c'est un film... Puis moi, je l'ai comme écouté en trois parties. Là. Je suis ça vieille. On dirait que j'ai de la misère à finir un film maintenant en soirée.
Mais ça t'a-tu tenu en haleine?
Ah, mon Dieu! Honnêtement, j'ai capoté sur ce film-là. Là. C'est un de mes films de l'année. Là. J'ai vraiment trippé.
C'est pas rien, ça?
Non, c'est...
Des gens qui écrivent, qui l'ont écouté là, dans les dernières heures puis qui sont d'accord avec toi. Là.
Ah non, c'est vraiment bon. Puis, tu sais, chaque fois que tu penses que ça pourrait finir parce que tu penses que tu es arrivé au bout de l'intrigue, c'est loin d'être terminé.
Des fois sur Netflix, parce que ça, c'est pas un film qui est sorti au cinéma avant. Là.
Non, c'est vraiment seulement sur streaming.
Sur Netflix, ils ont du budget, mais il n'y en avait pas autant, mettons, qu'une grande production cinématographique. As-tu eu...
Les autres avaient 47 millions.
Mais as-tu eu le sentiment... qui en manquait un peu dans comment ça a été monté.
Pas en tout.
OK.
Ah non, vraiment pas. Puis tu sais, les acteurs sont solidement bons. Puis c'est fait un peu avec humour noir, là. Tu sais, oui, on est dans l'action, mais on est toujours aussi dans l'espèce de féerie des fêtes. Il y a le côté un peu comique aussi du monde à l'aéroport qui sont tellement désagréables, mais tellement désagréables.
Ouais, bon, on les comprend maintenant avec toutes les histoires, là, des coupeurs, puis des pas de siège, puis là, t'as pas de place, puis...
Puis il y en a que je comprends. Que tu vas devoir payer.
Puis avant que doivent le payer. Il y avait rapetissé, je sais pas, tu sais, les genres de... C'est des structures en métal dans lesquelles tu peux aller voir si ton carry-on entrait dans le vie format, OK? Oui. Pendant des années, toi, t'en as eu un carry-on, tu l'as gardé. Ils ont rapetissé.
Oh, ouais, hein? Mais ça m'épate pas en tout. Ça m'épate vraiment pas. Puis tu vois, ça, c'est drôle parce que c'est une scène dans le film.
Pour vrai?
Où le dit Paxac rentre pas à bonne place. Puis ça crée justement un autre moment du film qui est vraiment, vraiment important. Fait que j'ai vraiment aimé ce film-là. Puis je suis pas une grande cinéphile, là. Fait que j'ai pas 1000 comparatifs à vous donner, mais ce que je sais, c'est qu'il est dans le top 10 en ce moment. C'est un incontournable si vous êtes pas film de Noël Quétaine, là. Je veux dire, je sais que les boys sont un peu moins là. Puis moi, mettons, quand je le regardais, mon chum est venu me cogner sur l'épaule pour me dire t'es pas en train de regarder Carry On. Je voulais qu'on le regarde ensemble.
OK, il l'avait mis sur sa liste.
C'est un solide film à regarder en famille.
Carry On, Audrey vient de le redire. Le bagage en version française. Si votre Netflix est en français, ça va être écrit le bagage. Les gens voulaient savoir c'était quoi à nouveau ce titre de film-là.
Tu vois, il y a quelqu'un qui me dit oui, mais non pour le comparatif avec Die Hard. Là.
OK.
C'est un clin d'œil. Oui, il y a un lien à faire, mais il y a des gens qui disent que Die Hard est encore indétrônable à ce niveau-là. Je sais que tu as regardé quelque chose, toi aussi.
Oui, moi, je suis très. Film de Noël d'enfant ou encore quétaine. Le film avec Chad Michael Murray qui a marqué l'adolescence de ben des ados qui sont rendus adultes, qui est sorti sur Netflix, m'a vraiment pas impressionné. Je suis un peu tannée de ces histoires-là qu'on sait au début ce qui va se passer à la fin, mais pour une raison que je m'explique pas, je m'étape au complet pareil.
Ouais.
Je l'ai pas trouvé sexy.
The Merry Gentleman, que ça s'appelle en passant pour ceux qui se demandent. Là.
C'est un genre de 2,81 converti en film de Noël. On veut sauver un bar, fait qu'on crée des spectacles d'hommes
qui dansent.
Très beaux. Qui normalement aurait mis beaucoup d'heures pour ce physique-là là, dans le gym, mais on les voit jamais au gym au final, mais qui danse. Puis tu t'épivardes, t'écoutes ça, je sais pas pourquoi t'écoutes ça, t'es déçu à la fin, mais en même temps, t'es rempli d'un sentiment de bonheur. Mais celui qui m'a accroché, c'est ce Noël-là. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu un film d'animation aussi bien réalisé, cute, du type « il m'accroche autant que Boréal Express » ou qui va peut-être devenir un classique. Je trouve qu'on est tellement rendu bon dans les films d'animation, dans ce qu'on produit technologiquement parlant. Les personnages sont attachants, je trouve ça beau, les histoires humaines en arrière de ça. Mais j'ai un petit clin d'œil à faire qui me fait bien rire à l'intérieur du film. Puis là, j'ai pas envie que le monde, ils sont bien tannés qu'on en parle de ces sujets-là, décroche puis le fassent pas écouter à leurs enfants. Mais il y a des petits clins d'œil du genre une famille qui s'en va chercher une dinde pour Noël puis qui demande à la petite fille si ça a été nourri au grain, s'ils sont élevés en liberté.
Oh mon Dieu Seigneur!
Là, j'étais comme OK. Après ça, les enfants à l'intérieur de ce film-là parlent de certains changements climatiques quand la température est pas tant intéressante pour le temps des fêtes.
Mais c'est fait avec une touche humoristique.
Oui, mais c'est très dans votre face. Puis ça m'a surprise.
C'est quoi l'histoire, hein, ce Noël-là sur Netflix en passant?
On suit un petit garçon, finalement, dans son conte de Noël, là, dans tout, du spectacle de Noël que sûrement vous allez voir de vos enfants, qui n'est plus un spectacle de crèche comme auparavant, puis ça choque bien les parents. Mais ça vient un peu challenger tous les paradigmes, toutes les histoires d'actualité, toute la modernité d'où on est rendu. Mais il faut le prendre avec un grain de sel. J'ai l'impression. Il ne faut pas le prendre comme étant un film de lutte, là, d'opinion et autres.
C'est-tu à 2 degrés? C'est-à-dire que c'est bon à écouter avec les enfants, mais les adultes ont un plaisir à l'écouter aussi.
Bien, si t'es un adulte du genre Pascal CV, Audrey Pinchot, qui va se régaler d'un film d'animation, tu vas trouver ça très beau. C'est touchant. T'as le goût de le réécouter fort probablement l'an prochain. Mais c'est ça, il faut pas être à cheval sur certains clins d'œil qui sont glissés. Puis ça, je trouve que de plus en plus, dans les films d'animation, il y en a pour enfants. Et ça pourrait devenir un genre de débat entre parents.
Bien, assurément, à ce niveau-là. Mais moi, ce que je trouve le fun, c'est quand les enfants comprennent pas nécessairement ces débats-là,
ouais.
Bien que c'est le fun d'écouter pour le parent, justement, parce que ça amène des questions.
T'sais. Des débats, j'ai pas vu ça souvent, à part dans 2-3 films au courant de la dernière année, mais un genre de film comme Shrek, qui était fait initialement pour les adultes, avec plein de connotations sexuelles un peu loufoques et très matures, que les enfants ne captent pas du tout. Puis toi, en tant que parent, t'as autant de fun que l'enfant.
C'est le fun, en amenez-en. Famille. Moi, tu vois, mon film, je vais l'écouter ce Noël-là, puis ça me fait penser... Puis pas par l'histoire, mais par les images. Ça me fait penser à Boréal Express.
Oui, c'est ça. C'est tellement bien fait.
Qui est vraiment un classique chez nous. Là. Ah, ça a l'air, pour vrai. Je regarde ça en ce moment, là, la petite bande-annonce. Ça a l'air super bien fait. Donc, ce Noël-là, puis Carry On sur Netflix, c'est pas mal nos suggestions ce matin dans l'Open Mic. Bon, on a une invitée qui nous attend sur le Zoom. On jase ce matin avec Catherine Voyer-Léger, qui est écrivaine. Elle a écrit « Adoption, les 12 travaux de la Banque Mix » après avoir vécu un processus d'adoption, justement, dans les dernières années. On va parler des problèmes, mais du beau aussi, je pense, derrière ça, si vous avez des questions. 418-971-1021. Ça part avec Zébulon ce matin. Bienvenue dans l'Open Mic. Vous êtes dans l'Open Mic, 10h31. Quel plaisir de vous accompagner encore pour la prochaine heure. Je m'appelle Audrey Pinchot, accompagnée de la douce Pascal CV jusqu'à demain.
Ouais, ben là, je me fais pas mal juger là, pour mes choix d'achat Marketplace. Je pense que j'ai l'air plus psychopathe que douce à ce moment.
Ah ben là, c'est une possibilité.
En même temps, si on me le réclame, je me dis...
Que ah, mais les gens sont curieux.
C'est ça.
Les gens osent pas, mais ils sont curieux quand même.
Ça divertit.
Je vous disais avant la pause qu'on allait jaser avec Catherine Voyer-Léger. Elle est l'auteure du livre « Adoption, les 12 travaux de la Banque Mix ». C'est de 200 à 250 enfants qui sont adoptés au Québec tous les ans. Et c'est un processus qui est excessivement compliqué.
Probablement trop dans certains dossiers. Là, des gens proches de moi, entre autres, un couple homosexuel qui a adopté un enfant. Puis ça a été tellement ardu qu'ils en souhaitent une deuxième adoption. Ils souhaitent passer à une deuxième adoption. Puis ça leur remémore pas nécessairement des beaux souvenirs.
Je suis comme mitigée parce qu'il y a une partie de moi qui me dit faut pas que ce soit facile non plus.
Oui.
Tu veux pas que n'importe qui puisse adopter. Mais d'un autre côté, je me dis faut pas que ça devienne décourageant pour des gens qui ont le cœur sur la main, qui veulent devenir famille d'accueil. Pas d'accueil, mais adopter plutôt. Puis finalement, le processus est tellement compliqué que tu finis par faire, bon, mais regarde, laisse faire. On va procéder autrement.
Est-ce que finalement, on se tire pas dans le pied avec certaines dispositions ou certaines demandes?
C'est un peu une des questions protéger, que j'ai. Totalement. C'est un peu une des questions que j'ai ce matin. Puis si vous en avez, n'hésitez pas au 88-971-1021. Je sais qu'on a des auditeurs qui sont dans ce processus-là aussi. Catherine, bon matin.
Bonjour.
Tu as navigué pendant 8 ans dans ce système-là pour adopter ta fille. Un processus qui s'est terminé en janvier 2024, donc relativement récemment, on va se le dire, et tu as fini par en écrire un livre. L'adoption par le programme de la Banque Mix, c'est la forme d'adoption la plus répandue. Ça remonte aux années 80. Là. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est peut-être pour les gens qui sont jamais passés par là ou qui ont jamais pensé à l'adoption?
Donc, le processus de la Banque Mix, c'est un processus qui est géré par la DPJ. Puis, en fait, l'idée, c'est qu'on s'inscrit d'abord comme famille d'accueil, mais en disant d'emblée qu'on a envie d'offrir un projet de vie stable à un enfant. Donc, c'était pour casser un problème qu'il y avait à l'époque, c'est qu'on plaçait des enfants dans des familles d'accueil, puis quand on se rendait compte, au bout d'un an, au bout de 2 ans, que... ils ne retourneraient pas dans leur famille d'origine, bien là, souvent, on devait les redéplacer parce que la famille d'accueil chez qui ils étaient, eux, ils n'avaient pas l'intention là, de garder un enfant à long terme, de l'adopter, c'était pas ça leur projet. Donc, l'idée de la Banque Mix, c'est de pouvoir placer des enfants. On ne peut pas être sûr que les enfants vont rester avec nous, mais l'idée, c'est que si jamais le retour n'est pas possible en famille d'origine, bien, à ce moment-là, ils sont déjà dans un lieu qui va être leur lieu de vie à long terme.
Tu as fait le processus au complet. Moi, je n'ai jamais été près de ça. J'ai connu des enfants qui se sont ramassés dans les mains de la DPJ, mais je n'ai jamais connu des gens qui ont adopté. C'est toujours quelque chose qui m'a vraiment fascinée. Peux-tu me décrire exactement le moment où tu veux adopter, là? Qu'est-ce que tu fais, là?
T'appelles au centre jeunesse de ta région. Ça, c'est ton étape numéro un. Puis d'ailleurs, je le dis souvent, mais je dis aux gens, faites-le plus tôt que tard. Moi, je l'ai fait un peu tard, en fait, parce que c'est un long processus. Puis quand je me suis retrouvée à la rencontre d'informations, moi, ma décision était prise. Là. Je le savais que c'était vers ça que j'allais. Tandis que c'est un bon endroit quand on est encore hésitant pour aller tester nos hésitations, admettons.
Est-ce que ça ressemble un peu finalement au processus de garderie? Il faudrait que tu inscrives ton enfant avant même de savoir que tu es en train de le concevoir.
C'est lourd, hein?
C'est un peu ça. C'est un peu ça, en effet. C'est que si vous êtes plus dans un mode, je ne sais pas, vous n'êtes pas sûr, vous testez la procréation médicalement assistée, par exemple, mais ça ne marche pas super bien, mais vous n'avez pas fini, mais allez quand même tout de suite à la rencontre d'informations, parce que ça va vous le dire si c'est une voie pour vous ou si vraiment ça fait comme, OK, non, trop lourd. Parce que ce qu'il faut savoir, puis moi, c'est ça que je voulais, c'est que à un moment donné, si tu es trop accroché à ton idée, peut-être que tu n'entends pas. Ils te le disent à la rencontre d'information, là, ça ne sera pas facile. C'est administrativement pas facile, ça peut être juridiquement très long et humainement, c'est un processus qui n'est pas facile. Il y a des gens qui tombent sur ce que Joanne Lemieux, la grande spécialiste en adoption, appelle des enfants étés, c'est-à-dire qu'ils vont avoir l'impression d'élever un enfant qui n'a à peu près aucun stigmate de son processus d'adoption. Mais soyons clairs, pour la majorité d'entre nous, notre vie quotidienne n'est pas facile. On a des enfants qui ont des lourds bagages, même s'ils se rappellent de rien. Et puis, il faut vivre avec ça, il faut apprendre à vivre avec ça. Puis moi, je pense que j'étais un peu dans la pensée magique. Puis même si on m'a prévenue, je n'ai pas vraiment entendu. Je ne dis pas que je ne le referais pas, mais disons que j'ai été un peu dans le déni pendant un certain temps par rapport à ce à quoi on faisait face chez nous.
Est-ce que je peux te demander pourquoi avoir décidé d'adopter, sachant justement que c'est un défi supplémentaire, là?
Bien, tu sais, moi, j'étais toute seule, j'avais pas de conjoint, j'étais rendue quand même, tu sais, plus que 35 ans, je voulais un enfant, ça, c'était clair pour moi. Puis, pour moi, l'idée d'une procréation médicalement assistée était encore plus rébarbative que ce que m'annonçait la Banque Mixte, là. C'est-à-dire que, pour plein de raisons, je me voyais pas. Ben, déjà, je suis une femme obèse, puis on le sait, pour les femmes obèses, c'est pas facile, la procréation assistée, puis on se fait beaucoup rabrouer par le système, on nous demande de perdre du poids. J'avais pas envie d'aller vivre ça toute seule, de me piquer des hormones toute seule. Tout ça, ça me tentait pas. Fait que pour moi, je pense que je tenais pas tant à la grossesse dans mon processus. Ce qui m'importait, c'était d'accompagner un enfant. Puis pour ça, on peut dire que je suis choyée parce que j'accompagne un merveilleux enfant depuis vraiment plusieurs années déjà.
C'est beau.
Dès le début, qu'est-ce qui a été difficile? T'sais, là, on parle à la première rencontre, justement, aller chercher de l'information. Mais quel a été le premier bâton dans les roues qui a fait « Ouh, OK, officiellement, ça va être difficile » et qui n'aurait pas été nécessaire, selon toi, Catherine?
Il y a beaucoup d'opacité. Effectivement, moi, je te dirais que le premier moment, je ne dirais pas qu'à ce moment-là, je me suis dit dans quoi je me suis embarquée, mais quand j'y repense, là... Il y a eu un moment, moi, j'ai été évaluée, disons, un an et demi après avoir fait ma rencontre d'information, avoir déposé mon dossier, ce qui est c'est pas mal le délai qu'on nous annonce là, à l'époque où moi, j'étais dans la région où j'étais. Puis, au moment de l'évaluation, il y avait déjà en tête un enfant qu'il voulait placer. Puis, on me disait, ça va aller vite, c'est urgent, ça va aller vite, c'est urgent. Mais ça a pris 3 mois, là. Puis ces 3 mois-là, là, c'est les 3 mois les plus longs de ma vie, là, parce qu'on ne me disait rien. T'sais, on me rencontrait pour me dire « ça va être urgent, ça va aller vite », puis là, silence radio pendant 3 semaines. Sérieux, je capotais. Chaque fois que mon téléphone sonnait, le cœur me lâchait. Puis, tu sais, cette opacité-là, assez souvent, tout le long du processus, je l'ai ressentie à plusieurs reprises. On ne nous parle pas beaucoup, tu sais. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est urgent? C'est quoi les étapes qui restent? C'est urgent, genre, elle arrive demain ou urgent, tu sais?
Oui, parce qu'il faut être prête, là.
Faut que tu prépares, mon
Dieu. Avec plein de matériel, mentalement aussi.
Puis on travaille, l'air de rien. Tu sais, il faut que tu partes en congé. Ça peut être bien. Fait que... Il y avait beaucoup, c'est ça. Puis, tu sais, on m'avait parlé de cette petite fille qui avait 1 an à l'époque. Puis là, un moment donné, on me rappelle pour me dire, bon, finalement, ça sera pas la petite fille. Puis là, OK... Puis là, on me rappelle, ah, ben finalement, ça va être... Tu sais, déjà, là, il y avait beaucoup, là, de... C'était très lourd,
hey, mais même pour toi, ben oui, c'est ça, ouais, personnellement, oui. Ça doit être difficile. Tu te fais des idées, veux pas, là, tu commences à te créer un futur quotidien dans ta tête. Est-ce que tu penses que ça peut décourager des familles de vouloir adopter?
Ben je pense que oui. Moi, j'avais peur que mon livre décourage trop. Après, les gens me disent qu'il y a tellement d'amour dedans que c'est pas l'effet que ça fait, donc tant mieux, parce que mon objectif, c'est pas que plus personne le fasse. Mais tu sais, je me dis, si vous êtes découragé juste en entendant ce que je viens de raconter, c'est pas pour vous, là.
Okay? Non, mais c'est un bon message.
C'est lourd. C'est drôle, hein? J'ai juste le raconté dans le livre, mais à ma rencontre d'information, je suis tombée sur quelqu'un que je connaissais qui, elle, avait immigré ici de la France. Puis elle n'est pas revenue à la deuxième rencontre d'information parce qu'elle m'a dit « Moi, je ne repars pas dans un processus administratif de même. Je suis encore brûlée de mon processus d'immigration.
Ah. »
Puis sur le coup, je me disais « Ouais, ben, elle ne veut pas d'enfant tant que ça, finalement. » Tu sais. Mais maintenant,
il y a eu
un
jugement là, de ta part à ce moment-là.
Ben oui, vraiment. Tu sais. Puis maintenant, je le comprends parce que je fais le parallèle entre ce que j'entends des histoires d'immigration. Il y a quelqu'un qui vient de publier un livre sur le curateur public. Ce qu'elle raconte, là, ça ressemble tellement à ce que je raconte. Là. C'est d'être comme pris au piège dans un système qui rend un peu fou, où tu ne te sens pas considéré comme humain, puis où tu es pris dans 1000 processus qui sont complètement déconnectés de ce que toi, tu es en train de vivre, qui est quand même, tu sais, l'expérience émotive la plus fondamentale qui soit, là. Puis là, il faut que tu remplisses des petits rapports pour dire combien de nuits elle a dormi chez vous. Tu sais, je le dis dans le livre, mais elle a dormi toutes les maudites nuits chez nous à partir du 29 novembre 2017. Puis j'ai dû, pendant 6 ans, presque 7 ans, remplir chaque mois un formulaire pour dire qu'elle dormait chez moi toutes les nuits. Puis là, à un moment donné, tu as comme envie de dire, pouvez-vous l'inscrire dans le système, là, qu'elle dort chez nous? Puis il n'y a pas d'autre plan, on vous rappellera si ça change.
Si ça change, ben oui.
C'est comme absurde. Puis à un moment donné, cette absurdité-là, elle s'accumule à un investissement émotif qui, lui, est très, très drainant aussi.
Est-ce que vous êtes formé? C'est une drôle de question, mais il y a certains enfants qui ont vécu des choses épouvantables. On va se le dire. Le Tobo est un bon parent. Il n'y a personne qui est prêt pour ces enjeux-là. Là.
Inimaginable, des fois.
Ah non. Puis vous dites inimaginable, puis je tiens à le dire. On pense tout de suite à des situations tragiques. On en entend, hein, il y en a dans. Mais. Les situations que vivent ces enfants-là, là, je ne vais pas vous raconter l'histoire de ma fille, mais ma fille, elle n'a rien vécu qui ressemble à un film d'horreur, a priori. Là. Sauf qu'elle a été beaucoup déplacée. Puis ça, pour un jeune bébé, ça laisse des traces importantes, même s'il n'y a pas de violence directe ou d'abus directs ou tout ce que vous pouvez mettre dans votre film d'horreur. Et c'est ça que, des fois, on néglige, en fait. C'est que, ben, justement, la petite négligence ordinaire, elle a des impacts qui sont là puis qui vont rester. Puis non, on n'est pas assez formé parce qu'à part les rencontres d'information dont je vous parle, on n'a pas vraiment... Puis là, en fonction des régions, c'est différent d'une région à l'autre, mais on ne reçoit pas toujours l'accompagnement dont on aurait besoin. Moi, ma fille est arrivée à 15 mois, puis c'est vers 2 ans et demi que j'ai levé la main pour dire, là, il y a des choses qui ne marchent pas, là. Tu sais, il y a des choses qui m'inquiètent. Puis le pire, là, c'est que sur papier, quand elle est arrivée chez moi, je le sais maintenant parce que maintenant je suis mieux formée et mieux informée, on avait tous les indices pour savoir que exactement ce qui est arrivé arriverait. Tout était là, là. Fait qu'on, ça veut dire, c'est eux, c'est la DPJ, c'est les mieux placés pour le savoir. Ils auraient dû le savoir.
T'aurais aimé qu'on t'indique
contourner ça.
Des possibilités par le fait qu'on est capable de capter certaines choses sans affirmer que ça va aller là ou qu'il va y avoir peut-être un trouble d'attachement. Moi, je parle en dehors de connaissance de ton cas, Catherine, puis de la petite, mais des troubles d'attachement qui vont être sévères dans le sens où est-ce que je peux faire confiance à l'adulte? Est-ce que ça va être pour toujours? Est-ce que c'est vraiment un milieu chez moi? Est-ce que ça va pouvoir m'angoisser et autres? Puis il y a deux personnes très, très proches de moi qui travaillent auprès de la DPJ de façon quotidienne. Et ces petites choses-là, même c'est pas de la violence physique qu'on entend des fois dans certains cas qui font la une et autres, font en sorte que ça teinte tellement le développement de l'enfant. Le 0 à 5 ans est hyper important. Oui. Ça va donner même sur les relations interpersonnelles plus tard, les relations amoureuses. Donc, si on t'entend bien, Catherine, toi, en n'étant pas aidée face à ça, il a fallu que tu fasses des démarches par toi-même. Puis encore là, c'est un apprentissage en même temps que tout se découvre chez ta fille.
Oui, puis tu n'as pas le droit de faire des démarches par toi-même. Tu n'as pas de droits parentaux. Fait que moi, je pouvais pas l'amener voir un spécialiste sans l'autorisation de la DPJ.
Père inquiétant.
Fait que là, il a fait... Puis là, c'est parce que le débat, c'est jamais dit, mais il est aussi financier, tu sais. C'est que là, évidemment, la DPJ ne veut pas payer l'évaluation neuropsychologique qui va coûter 2 500 $. Puis là, comme tu n'as pas de droits parentaux parce que tu n'as toujours pas adopté puis que ton enfant est toujours sous les auspices de la DPJ, théoriquement, c'est à eux de payer, là, parce que toi, tu n'es pas un parent. On te le répète sans arrêt. Tu n'es pas son parent encore, là. Fait que là, t'es pris là-dedans. À un moment donné, j'ai eu effectivement l'autorisation, c'était bien formel, si c'était moi qui payais, d'aller chercher des services au privé. Parce qu'on ne peut pas aller dans les CLSC non plus, parce qu'on est considéré comme pris en charge par la DPJ. Donc, théoriquement, on les a, les services. Fait que finalement, je suis allée au privé, mais c'était en janvier 2020. Puis là, la pandémie est arrivée, puis tout a explosé.
Et c'est
là,
un bordel.
Ça a été très dur. Puis, je le dis dans le livre, puis pour moi, c'est important de le nommer parce que pour moi, c'est le scandale, admettons, politique, il est là. C'est que nous, une des particularités, c'est qu'on a déménagé à un moment donné. On a déménagé de la région où on était vers Montréal. Et là, ma vie a changé. Et là, c'était plus pareil. Là. Puis c'est pas parce que le monde sur qui je suis tombée à Montréal était tellement plus fin puis tellement compétent. Là. C'est parce qu'il y a clairement beaucoup plus de services dans les grands centres que dans beaucoup de régions. Puis ça, ce que ça veut dire, c'est que les enfants du Québec, ils n'ont pas tous les mêmes services en fonction d'où ils naissent. Puis ça, je trouve ça inadmissible. Puis il faut le dire.
Mais c'est parce que la DPJ serait censée être là pour faire en sorte que les services soient égaux, justement. Là.
Ben oui. Puis je me rappelle, parce que moi, j'étais suivie par les deux, parce que ma fille restait attachée à la région d'origine. Donc, j'étais suivie par les deux DPJ en même temps. Puis des fois, on avait des rencontres à trois. Puis les intervenants de notre région d'origine, ils étaient comme... Wow, vous avez eu accès à une ergothérapeute, tu sais, jamais on aurait ça chez nous, là.
Ça fait pitié pour eux aussi, ces intervenants-là qui se battent à tous les jours puis qui réussissent même pas à avoir les services qu'ils aimeraient que les enfants aient, puis qui se rendent compte qu'ailleurs, ça se fait, tu sais, au Québec. Mm.
C'est très fâchant. C'est très, très fâchant. Puis nous, c'est ça, notre vie, elle a changé à partir de ce moment-là. Là. Clairement, là, on a eu des services, puis... C'est qu'il faut aussi, puis ça, c'est important de le dire, il faut des services appropriés, il faut des services de gens qui connaissent l'adoption. C'est drôle, je viens de recevoir justement le rapport d'une nouvelle ergothérapeute, puis c'est intéressant parce que dès l'introduction, elle utilise le terme « normalité adoptive », qui est un terme qui a été mis de l'avant par Joanne Lemieux, qui est la grande spécialiste de l'adoption. Puis ça, là, c'est important, se retrouver devant n'importe quel psychoéducateur ou n'importe quel ergothérapeute qui ne connaît pas les réalités liées à l'adoption, au placement, tout ça, ça fait qu'on passe à côté de choses qui sont centrales chez ces enfants-là et que peu de gens connaissent en dehors des spécialistes. Et ces services spécialisés-là, ils sont extrêmement rares. Puis c'est drôle parce que je lisais une étude récemment qui a été faite sur la recherche de services par les parents de la banque mixte, puis je pleurais parce que c'était comme mon histoire. Puis là, je me disais, OK, on vit tous la même chose, là. On va vers des services généralistes, puis là, les gens nous parlent, puis on se dit, ils comprennent pas. Ils comprennent pas de quoi je leur parle, là. Ils me disent, quand elle veut pas se coucher le soir, il faut la ramener dans son lit fermement et sans violence. Mais elle me suit pas. Tu sais, qu'est-ce que je fais si je l'amène fermement et sans violence, puis qu'elle vient pas, tu sais? Parce qu'on est... Il y a beaucoup d'enfants qui passent par la banque mixte qui ont des traumas de petite enfance. Il y a les enjeux d'attachement dont vous avez parlé. Il y a tout l'aspect affectif. Moi, une des particularités de notre dossier, c'est qu'on est encore en contact avec la famille biologique. Fait que ma fille, elle vit aussi dans un conflit de loyauté là, qui existe.
Donc, puis c'est correct en même temps, si la famille biologique, elle a encore le droit d'avoir un contact, c'est qu'il y a une raison derrière de ça, mais c'est tellement déchirant pour un enfant, c'est jeune en plus.
Bien, c'est jeune, puis on ne comprend pas tout. Puis nommer les choses, des fois, elle aura envie de nommer des choses, mais elle a peur de me faire de la peine, elle a peur de faire de la peine à son autre famille. Fait que moi, je l'accompagne là-dedans, mais évidemment, pour que je puisse l'accompagner là-dedans, il faut que moi, j'ai été formée, que j'ai lu les bons livres, qu'on m'ait envoyé vers les bonnes sources. Puis c'est ça, nous, ça a commencé, je dirais, là, quand elle a eu 5 ans, puis on est arrivé à Montréal, là, on a commencé à avoir des meilleurs suivis, puis des meilleures orientations. Puis notre vie a changé, mais il a aussi fallu que j'accepte de plus travailler à temps plein.
Oh boy! En passant, on parle avec Catherine Voyer-Léger, qui est l'auteur du livre « Adoption, les 12 travaux de la banque mixte », qui est pas mal, j'ai quasiment envie de dire, la ressource pour savoir ce qui s'en vient si vous entrez dans ce processus-là. Tu parlais, puis il y a deux choses qui me sont venues en tête. La première, c'est quasiment... c'est plate comme question, mais est-ce que tu es obligée de laisser une place à la famille d'origine dans la vie de ton enfant quand tu l'as finalement adopté?
Non. Pas du tout, c'est même très rare que ça arrive. De façon générale, en banque mixte, quand l'adoption a lieu, les liens sont coupés. Okay. Par contre, dans notre cas, c'est que ça a été tellement long. Quand l'adoption a été déclarée, ma fille avait 7 ans et demi.
Oh boy! Okay, ça a pris tout ce temps-là?
Oui, ça a pris, ben c'est ça. C'était en janvier dernier, là, officiellement, l'adoption. Donc, tu sais, pourquoi? C'est-à-dire que personne ne représente un danger dans sa famille. Elle connaît... sa mère, sa grand-mère, sa fratrie. Pourquoi là, je déciderais unilatéralement que je coupe tous les... Pourquoi j'y ferais vivre un autre abandon? Je le voyais pas comment c'était possible, en fait, qu'on coupe les liens rendus à cet âge-là. Même si, tu sais, il y a des spécialistes qui me disent « mais ça y fait pas du bien », ben je comprends, mais ça y ferait pas du bien que j'y dise « t'as plus le droit de les voir non plus ». Tu sais, c'est-à-dire que là, je fais face à la situation telle qu'elle est. C'est sûr que quand ça provoque des choses, tu sais, Je dirais que souvent, à l'âge que ma fille, comme 8 ans à peu près, chez les enfants adoptés, le conflit de loyauté, surtout s'ils n'ont pas de contact, il est un peu en dormance, puis il va renaître plus tard, tu sais, quand ils prennent plus conscience, là, ils veulent retrouver leurs parents. Nous, il est très actif, tu sais, il est là, chaque fois, on les voit 3 fois par année, donc chaque fois, on traverse un peu ce couloir-là ensemble, puis on fait un chemin. Mais moi, je trouve pas ça négatif au final, tu sais, on... Le côté positif, c'est qu'elle sait, tu sais, elle ne peut pas idéaliser qu'est-ce que ça serait, admettons, qui ces gens-là qu'elle ne connaît pas. Elle les connaît, fait qu'elle a une image très claire.
Et pour elle, tu es sa maman?
Oui, ça, il n'y a pas de... Elle sait qu'elle appelle son autre maman « mamie », puis elle sait qu'elle a une autre maman, mais pour c'est moi sa maman, c'est sûr. Pour elle, il n'y a pas de doute, là. C'est moi la personne vers qui elle se retourne.
J'ai une autre drôle de question pour toi, Catherine. Pendant que tu parlais, ça me faisait penser au choix de l'enfant. Ça a l'air bizarre, mais est-ce que la DPJ, quand tu veux adopter, t'impose un enfant ou tu as un certain choix sur est-ce que tu vas recevoir un petit gars, une petite fille, l'âge, par exemple?
Bien, tu as beaucoup. C'est-à-dire, c'est même difficile, là, ce bout-là. Là, dans les formulaires, tu as plein de critères à remplir. Autant sur les qui concernent l'enfant... qui concerne l'histoire des parents, tu peux exclure, admettons, tu sais, certaines problématiques avec lesquelles tu serais mal à l'aise. Longtemps, il y a même eu des critères liés à l'ethnicité. Là, ça n'existe plus vraiment parce que ça a été contesté. Mais reste que, je pense que malgré tout, la DPJ reste très attentive à ça. Tu sais, il n'y a aucun intérêt à envoyer un enfant noir, admettons, dans une famille où on serait raciste. Là, tu sais, ça aiderait personne.
Mais ces parents-là pourraient adopter? Quand ben, c'est concret, c'est mettons, pas... le racisme, ça, mais en tout cas, ça sera pour une autre
entrevue. C'est sûr que c'est rare que tu n'écris pas ça dans ton formulaire. Moi, je suis raciste.
Non, c'est ça, les gens ne l'assument pas.
Je ne suis pas raciste, mais...
c'est ça. Mais donc, tu sais, il y a plusieurs critères. Puis après, tu as toujours le droit de préciser des critères de santé. Le problème, c'est que plus tu veux un enfant jeune, moins les critères de santé sont possibles à vérifier. C'est-à-dire que comme le spectre du trouble de l'autisme, par exemple, tu sais, on ne sait pas ça à 15 mois, là, tu sais, tout ça. Fait que, après, il y a des discussions, tout ça, puis tu peux préciser ce que tu veux, ce que tu ne veux pas. C'est sûr que plus tes critères sont précis, plus ça risque d'être long, tu sais. Moi, c'était surtout, tu sais, pour moi, l'important, c'était surtout des critères d'âge. Moi, j'avais dit en bas de 2 ans, c'est ça. Il y a des gens qui tiennent absolument à avoir un tout petit bébé parce qu'ils s'imaginent qu'au plan de l'attachement, ça va être plus simple. C'est pas toujours vrai, tu sais, mais c'est vrai qu'il y a moins de chances qu'il y ait eu beaucoup de déplacements, etc. On voit de plus en plus en banque mixte des enfants beaucoup plus vieux. Avant, ça n'existait pas. Je comprends pas trop pourquoi. J'ai l'impression que c'est aussi parce qu'il n'y a juste plus de familles d'accueil. Fait que là, on les envoie en banque mixte. Mais moi, chapeau, là. Moi, j'ai suivi une femme là, qui a... Moi, ma fille, elle peut être assez violente avec moi. Elle s'est beaucoup calmée, mais elle m'a beaucoup frappée là, dans la vie. Mais j'ai connu une femme qui a vécu ça après 2 semaines de placement là, avec une enfant de 6 ans là, se faire taper dessus. Moi, j'aurais pas pu faire face à ça avant que mon attachement à moi soit profond et décidé. Là, je pense pas que j'aurais été capable d'accueillir chez moi comme ça un enfant qui me rejette ainsi, puis continuer le chemin. Là, je leur dis vraiment, ça prend beaucoup de courage, là, s'embarquer là-dedans.
Je trouve ça super intéressant, le livre que tu as publié, Catherine, puis peut-être même essentiel, parce que, bon, pour avoir connu, c'est ça, 2 couples d'amis qui l'ont fait, c'est super difficile, mais en même temps, sont tellement rempli d'amour. C'est quelque chose qui a assouvi un genre de besoin de parentalité. Au final, c'est une des plus belles choses qui leur est arrivée dans leur vie, malgré tous les défis puis les défis additionnels de cette situation-là. C'est un livre qui est important, ce que tu as publié, mais dans le cri de bonheur, dans le positif de tout ça, qu'est-ce qui est important aussi à dire pour toi?
Bien, tu sais, je pense que ce qui est important, c'est de comprendre pour les parents qui s'embarquent là-dedans que ça va... Évidemment, un enfant, ça change toujours ta vie, mais que là, il y a une couche de plus, tu sais. Moi, ma relation pendant toutes ces années-là avec l'appareil de la DPJ, c'est une relation qui m'a minée, tu sais. Ça a été très exigeant pour moi. Je suis plus la même personne, j'ai plus la même énergie, j'ai plus la même confiance en moi. Cet aspect-là administratif, c'est important de le mesurer. Bon, moi, j'ai fait ça toute seule aussi. Je pense qu'à 2, on peut plus se soutenir, mais je connais aussi du monde qui ont fini par se séparer.
Parce que
c'est lourd, ouais, là. Tout ça, c'est lourd. Puis être prêt à dire, tu sais, réfléchir en amont, là, si notre enfant, il y a des enjeux d'attachement importants, là, moi, quand l'école m'a appelé en maternelle pour me dire, on pense qu'on ne pourra pas l'apprendre à temps plein, là, la face m'a tombée quand même, là, parce qu'on vit sur un salaire, là, tu sais. Mm-hmm. Je fais quoi le reste de la journée avec mon enfant s'ils ne peuvent pas l'apprendre à temps plein, là, tu sais. Les 4 jours, là, c'est l'enfer, là, tu sais. Chaque été, là, il arrive un moment où je me dis, OK, OK, là, c'est le burn-out assuré, là, parce que là, ils peuvent pas la garder au camp de jour. Tu sais, c'est compliqué. Fait qu'il faut... Moi, ce que j'ai pas fait, puis que je dirais aux gens de faire, c'est faites-le en amont. Mm. Si on est deux, puis qu'on peut plus toutes les deux travailler à temps plein à un moment donné parce que notre enfant, il a besoin d'accompagnement puis de soins, qu'est-ce que ça veut dire pour notre vie? Posez-vous la question, tu sais. Moi, quand j'ai fait l'évaluation, c'était très large, là. Avez-vous un bon réseau? Oui, j'ai un bon réseau. J'ai un super réseau de soutien affectif. J'ai un super réseau de gardiennes. Mais honnêtement, j'ai personne pour venir prendre le relais quand tout explose dans ma maison à 8h30 le soir. Puis ça, on ne m'a pas posé la question, concrètement, tu sais. C'est ça.
Puis Catherine, mettons qu'on regarde ce que ça t'a apporté comme personne au niveau positif.
C'est sûr que je suis une meilleure personne. Même tout ça. Mais tu sais, tout ça m'a obligée à revenir à l'essentiel. Puis je trouve qu'un, elle m'a appris beaucoup sur moi parce qu'en faisant des recherches sur sa santé à elle, j'ai découvert c'est quoi les hypersensibilités. J'ai compris beaucoup de choses sur ma propre enfance à une époque où on ne parlait pas de ce genre d'affaires-là. Elle m'oblige à m'arrêter. Elle m'oblige à me demander pourquoi on est pressé de même le matin. Pourquoi maudit d'envie? On presse nos enfants de même le matin. Elle, elle ne peut pas le prendre. C'est pas possible pour elle d'accepter ça. T'sais. Puis, c'est ça. T'sais, j'entends souvent des parents me dire, ah, ça, chez nous, ça ne passe pas, c'est non négociable. Puis, ça me fait sourire parce que je me dis, ben moi, c'est un peu ça. C'est elle qui me dit ça des fois. Ça, c'est non négociable. Ça, pour elle, ça ne se peut pas. Qu'on y mette de la pression de même sur certaines affaires que je suis même pas capable d'y expliquer pourquoi on met de la pression.
Oui, c'est ça.
C'est juste de même.
Pourquoi là, ça va vite de même, maman? Ben, je sais pas.
Pas une question.
Je sais même pas pourquoi c'est si obligatoire qu'on arrive à l'heure. Je le sais pas. Fait que c'est ça, tu sais, ça constamment, c'est quelqu'un, puis c'est quelqu'un qui me ressemble à plusieurs égards, mais qui est aussi très différent de moi. C'est une vraie créative, elle est libre dans sa tête. Puis ça, moi, je suis quelqu'un qui a toujours obéi aux règles, qui a toujours eu peur de déranger. Puis elle m'oblige justement à dire, bien, des fois, on dérange. Oui. Des fois, on est qui on est, puis on dérange.
Puis c'est correct.
Bien, vit avec.
On va toujours déranger quelqu'un.
On a le droit d'être là.
Ouais, oui, c'est ça.
On a le droit d'aller au théâtre, même si nous, on n'est pas capable de rester assis 45 minutes. On a quand même le droit d'être là. Puis c'est ça. Fait que ça, elle m'apprend ça. T'sais, elle m'apprend à me tenir plus droite. Pour elle, j'apprends à tenir droite puis à défendre qui on est.
Je trouve ça excessivement beau, Catherine. Je tiens à te le dire. On parle avec Catherine Voyer-Léger qui est entrée dans le processus d'adoption par le programme de la Banque Mix. Pour les gens qui viennent de se joindre à nous, Catherine, mettons qu'on se fait un genre de top 3 là, de ce qui pourrait changer dans le processus pour l'améliorer.
Il faut que les intervenants de la DPJ soient mieux formés aux réalités de l'adoption. Là, je parle de l'attachement, ce genre de choses-là. Il faut que les processus soient uniformisés d'une région à l'autre pour qu'il y ait des services équivalents partout et de grande qualité. Puis il faut ce qu'on appelle des services post-adoption qui sont quasi inexistants au Québec. C'est-à-dire que pour l'instant, le programme est bâti sur l'idée qu'une fois l'adoption déclarée, ton enfant n'a plus aucune séquelle. Okay. Là, t'es devenue une famille comme les autres.
Ouais, c'est
OK,
ça.
Ciao, bye!
Au revoir.
Bonne chance.
Puis, je peux pas croire que c'est parce qu'il y a un manque de connaissances à ce niveau-là. J'ai vraiment l'impression que c'est parce qu'ils sont pas capables d'assurer ce service-là, fait qu'ils font du déni volontaire.
Mais ils sont pas capables, c'est clair. Moi, je dis souvent, la Banque Mix n'a pas les moyens de ses ambitions. Ouais, c'est un beau programme sur papier, mais pour l'instant, on a trop le sentiment que les enfants en Banque Mix ont moins besoin de soutien que les enfants qui sont dans la DPJ régulière, admettons, qui, eux, vont réintégrer leur famille et tout ça. Puis c'est pas vrai.
Puis en même temps, il faut que t'aies place. En même temps, il faut que ces enfants-là aient une famille. Donc là, je me demande s'il n'y a pas eu un laisser-aller ou une habitude en se disant, de toute manière, il fallait les placer, on le fait. On le fait de cette manière-là depuis des années. Puis ça roule comme ça, puis on a de l'énergie à mettre ailleurs. Puis sinon, ben, on n'a plus de banque d'énergie. Donc, ça va continuer comme ça.
Puis tu sais, c'est pour ça que moi, je le dis toujours, je blâme pas personne en particulier. Je pense que tout le monde que j'ai rencontré dans ce système-là, fait le mieux qu'il peut avec les ressources qu'il a, mais il y a vraiment un manque de ressources, on le sait. Je ne sais pas c'est quoi la solution, mais la solution, c'est entre autres d'en parler. Parce que trop souvent, quand on parle de la DPJ, on ne parle jamais des adoptions puis de la banque mixte, justement parce qu'on a l'impression que ça, c'est des cas réglés, entre guillemets.
Mais totalement, on a l'impression que c'est le positif au bout de la ligne, en fait.
Bien, c'est positif, mais si on veut que ce soit pour vrai... Je me rappelle d'avoir pensé une fois, l'intervenante était chez nous et elle a dû quitter en urgence parce qu'elle avait une ado qui fuguait. Puis là, je voyais bien qu'elle se disait « Hey, ton enfant de 2 ans et demi qui fait le bacon, là, c'est la dernière de mes priorités. » Puis moi, tu sais, elle est partie de la maison puis je me suis dit « Ouais, mais c'est parce que mon enfant de 2 ans et demi qui fait le bacon, ça va être l'ado qui fugue dans 10 ans. Ouais. » Si on ne fait pas quelque chose avec son bacon qui n'est pas un bacon ordinaire, là, qui est comme un bacon intense.
En même temps, elle avait son urgence.
On peut-tu prévenir, oui.
C'est ça. Fait que je ne sais pas les solutions. Je ne suis pas dans le système puis je ne veux vraiment pas jouer les belles-mères. C'est pas ça. Mais je pense qu'il faut considérer qu'en adoption, on a des besoins spécifiques.
Bien, le message est très, très clair, Catherine, je pense. J'ai vraiment apprécié ce moment-là ce matin. Je tiens à te le dire. Ton livre, on peut se le procurer où? Parce que je pense que c'est un ouvrage assez juste sur le processus.
Il est partout, dans toutes les bonnes librairies. Et c'est un beau cadeau à faire aux gens qui sont en amont de ce processus-là, je pense.
J'ai peut-être une petite question, Bonnie, là-dessus.
Bien, vas-y donc.
En terminant, Catherine, là, y a-t-il des gens qui t'ont dit « Non, nous, on publie pas ça » parce que justement, ça allait checker un peu la cabane?
Non, mais en fait, c'était une commande. C'est l'éditeur qui l'a commandé, fait que j'ai pas eu ce problème-là. Mais non, je pense que non, au contraire, les éditeurs aiment bien quand on check la cabane. Donc, il aurait été plutôt, je pense qu'il y a plus du monde jaloux que je ne sois pas allé publier ça chez eux.
Mais c'est nécessaire, je trouve, parce que tu sais, les internets, c'est magique, là, tu peux faire mille et une recherches, mais je trouve que de retrouver la vérité dans un livre venant d'une personne qui a passé dans le processus, c'est une maudine de belle affaire. Fait qu'effectivement, beau cadeau de Noël. Catherine Voyer-Léger, je te remercie, je te souhaite un magnifique temps des fêtes avec ta puce.
Merci, joyeux Noël à vous.
Bonne Salut. Journée. Hey, je trouve ça franchement intéressant. Je ne m'attendais pas à ça ce matin.
Mais je trouve que c'est encore mieux que ce à quoi on s'attendait parce qu'on se lançait dans quelque chose qui ne nous a pas touché considérablement. Ce n'est pas dans notre vie, ce n'est pas un enjeu qu'on a. Fait qu'on était tout ouvert, tout oui à ça. Ça résonne encore plus sur tous les problèmes du côté du DPJ. Et la dernière chose, moi, que je vois là-dedans, c'est à quel point, je le dis tout le temps en nombre, je trouve que c'est la meilleure manière de le reploguer en ce moment, les enfants que l'on a en ce moment seront les adultes de demain qui vont créer notre société.
Ah, tellement.
Fait que tous les problèmes qu'on pèle en avant, on les pèle en quadruple. Côté d'enfance, là, c'est significatif. C'est assurer que ces enfants-là, si ce n'est pas bien régulé du 0 à 5 et en montant, ça va devenir des problèmes qui vont nous coûter encore plus cher, ça va être encore plus difficile côté employabilité.
Ce que je veux dire, Pascal, quand je te dis que c'est par rapport à tout, c'est qu'on n'a jamais travaillé, du moins dans notre société actuelle, en prévention. Tu sais, avec les enfants de demain, mais dans l'éducation aussi, dans la santé, je veux dire, c'est pas pour rien qu'on rush comme ça avec les hôpitaux. On a reçu souvent, là, Gabriel Hardy du Tonic, là, qui travaille fort avec le gouvernement pour essayer d'amener ce message-là de si on prévient puis on nous donne des outils, bien, ceux de demain iront mieux. Fait que je suis 100% d'accord
avec toi.
C'est juste
que ça a un impact sur le ministère de la Santé par la suite,
absolument.
Sur le ministère de l'Éducation,
Surtout. Sur
absolument les réseaux, tous les réseaux, puis je veux dire sociaux du genre Instagram et autres, mais les filets de sécurité, la contribution aussi des finances, puis ça part de cette enfance-là. Les impacts, après, on le voit, sauf que quand tu regardes le noyau est doux, il est pas mal de là.
Il y a des textos qui sont entrés super intéressants, super touchants. Il y a quelqu'un qui nous dit « Moi, j'ai été adoptée en 1979. Avant même ma naissance, tout était déjà planifié. À cette époque-là, j'ai le sentiment que c'était beaucoup plus facile. Et j'ai jamais connu mes parents biologiques. J'ai pas l'intention de faire des recherches non plus. » Je suis tellement mitigée parce que, tu sais, on écoutait Catherine, puis une partie de moi qui me dit « Mon Dieu, on peut-tu rendre la vie plus facile à ces gens-là? » D'un autre côté, Pascal, tu l'as bien nommé, il y a l'aspect manque de ressources. On peut pas taper ça à la tête des intervenants qui eux-mêmes cherchent des solutions puis sont découragés du système dans lequel ils sont. Puis d'un autre côté, je me dis, faut pas trop lousser non plus parce qu'il faut pas laisser n'importe qui devenir famille d'accueil. Fait que
Est-ce qu'on en a vu là, dans l'actualité des drames de familles d'accueil qui en ont profité? Là.
C'est épouvantable.
Un autre texto, l'adoption est tellement compliquée et exigeante sur des points complètement hors propos. Une de mes amies s'est vue refuser l'adoption parce que son sous-sol était non terminé. Et en contrepartie, la banque de sperme est pratiquement porte ouverte. Pour l'adoption, il faudrait prouver que l'on est un couple stable et durable pour la banque de sperme, rien du tout. C'est décourageant pour les couples infertiles et ou homosexuels. C'est un texto qui, je pense, pourrait être copié-collé par bien des gens, juste famille d'accueil. Vous irez voir toutes les demandes que l'on fait à une famille d'accueil. Puis des fois, c'est vraiment une histoire de peinture, ces murs, là. C'est complètement stupide, puis ça amène à avoir une pénurie de famille d'accueil aussi.
Bien, totalement. Mais c'est parce que t'as pas envie de te lancer dans ce processus-là. C'est drôle, mais j'avais déjà eu la discussion avec mon chum là-dessus. Puis quand je regarde à quel point c'est compliqué, nous, on a la chance, en tout cas, je pense, de pouvoir avoir un enfant par nous-mêmes. Fait que tu te poses la question, bien, tu sais, rendu là, est-ce qu'on se lance dans... Puis Catherine l'a dit, ça te change comme personne aussi, ça t'épuise. Est-ce que tu veux vraiment te lancer là-dedans? J'ai une admiration sans fin pour ces gens-là, sincèrement. On revient dans quelques instants. Vous êtes dans l'open mic, vous avez des témoignages, des questions. Ça passe par le 88-900. C'est un 102. On revient dans quelques minutes.
Cet hiver, offrez à...
T'avais envie d'ouvrir ça, hein?
Je voulais ouvrir les rideaux. C'était bien important. Je ne sais pas si vous avez entendu le son. Des...
Non, j'ai entendu avant d'ouvrir le micro. Veux-tu refaire un genre de bruit?
Non, mais c'est que là, le soleil semble être sorti. Je voulais être sûre qu'on puisse l'avoir en studio, que ce ne soit pas trop sombre.
Semble étant le verbe que tu souhaites utiliser là-dedans?
Il est sorti. Il est sorti, t'as raison. Quelques nuages encore, mais on est chanceux. C'est un moins 3 présentement à Québec. On a un maximum de moins 2 faibles neiges intermittentes prévues pour ce qui est de ce soir et cette nuit. Demain, ça se dégage quand même pas pire avec un moins 8 degrés. Pour ce qui est de samedi, moins 8 également, mais ce sera nuageux. Le soleil sort officiellement dimanche avec un moins 10, moins 14 le 23 décembre, moins 7 le 24, toujours du soleil. Et une alternance de neige et de soleil pour ce qui est du 25 décembre, yeah! Noël, avec un moins 4. Jusqu'à maintenant, c'est ça, on se croise les doigts.
C'est super confortable, Audrey, puis t'en as parlé cette semaine. J'ai envie qu'on en reparle parce que le 21 décembre, c'est aussi l'ouverture d'un genre d'événement super le fun avec les enfants. Souvent, dans ce moment-là de l'année, là, tu sais pas quoi faire. T'es dans les préparatifs de Noël, oui, mais t'as envie de sortir un peu, t'es tombé en vacances. Bien, le 21 décembre, à partir du 21, tu peux te rendre en famille à donc, avec tes enfants ou les enfants de n'importe qui, du côté...
Tu peux voler des enfants pour ça,
ben,
je
moi,
pense.
Je le fais. Oh, honnêtement, voyons. Ma fille, mon neveu, ma sœur, tu veux une pause? Parfait, tu me l'as pas demandé, c'est correct, je pars avec les enfants. Puis, je vais aller du côté de la plage hivernale de Bonhomme Carnaval. Tu te dis, oui, on n'a pas commencé le carnaval, mais oui, il y a un événement spécial avec des activités assez uniques, OK? Donc, tes enfants vont pouvoir escalader sur corde, sur bloc, il va y avoir une via ferrata, tu vas pouvoir plonger dans une piscine de balles géantes. Je sais que c'est ton rêve, Audrey. Une affaire pas mal haute. Aller sur la piste de manière Mario Kart avec un 3 ski électrique. Je suis vraiment triste que ce soit juste pour les enfants, là.
J'aurais vraiment aimé pouvoir participer à celle-là.
T'amènes des pleurs de bananes puis les adultes sont morts de rire, là. Les enfants comprennent rien, mais quand même. Tu peux aller glisser sur tube aussi, puis il y a plein d'autres jeux amusants. Mais ça, je veux dire, t'es déjà convaincu avec au moins la piste Mario Kart. C'est à l'espace 400 que ça se passe. L'entrée sur le site, ben c'est gratuit. Pour les activités, il y a un laissez-passer qui est nécessaire, mais ça vaut vraiment la peine. Tu t'habilles chaudement, pas trop chaudement, avec la météo que tu viens de faire. De 10h à 17h, tu plonges dans l'hiver, tu tripes avant même que Noël arrive. Si tu veux de l'information, carnaval.qc.ca.
Gougoune et doudoune, c'est vraiment un bel événement. Présentement, sur les routes Henri IV Nord, à la fin de l'accès depuis Char et Ouest, c'est partiellement entrivé. Il y a un incident de ce côté-là. Pas plus de détails pour l'instant. Si vous en avez, vous vous gênez pas. C'est difficile de circuler sur Char et Est en ce moment aussi, entre Henri IV et Robert Bourassa. Il y a des difficultés aussi sur Henri IV direction nord à la hauteur de Charest. Si vous êtes sur Laurentienne, direction sud dans la bretelle pour aller chercher Capitale-Ouest, quelques ralentissements à prendre en compte également. Je vais vous parler de Sebab, notre gang de Sebab. Oui. Demain matin, Pascal et moi, on va se préparer du côté du Sebab, 3e avenue Limoilou, parce que les boys du matin, Rage Against le matin, vont aller faire l'émission en direct de là.
Ça veut dire qu'eux sont là à partir de 6, mais nous, oui. On arrive à partir de quelle heure?
Et c'est une bonne question, ça. Moi, on dirait que j'ai comme le goût d'arriver un peu plus tôt pour prendre le temps de prendre un café aussi, jaser avec le monde.
Moi aussi, mais ça vous tente pas de me voir au réveil. Fait que là, on va trouver
le juste milieu. Hein?
Mais les gars seront déjà fort réveillés.
Absolument. Absolument. Et Sebab, c'est un partner de longue date qu'on apprécie beaucoup. C'est eux qui vous donnent 100$ tous les jours dans le cadre du calendrier de l'Avent. Mm-hmm. Donc, encore aujourd'hui, vous vous rendez sur Facebook, sur Instagram. Vous allez voir la vidéo du jour et vous repérez tout simplement la tasse Sebab qui est apposée, collée ou cachée quelque part dans la vidéo. Elle est drôle, la vidéo aujourd'hui. C'est un « finish the lyrics ». C'est fini oui. Les paroles.
Oui. Là, fait vous avez gardé un bout quand même démagogue, là, de ma part.
C'est très drôle. C'est très, très drôle. Tu sais, Pascal...
C'est démagogue.
I'm dreaming of a white
Christmas.
Ouais, c'est ça un finish de l'été.
Oui, je suis tellement bonne.
Fait qu'on a fait, ouais, elle connaît ses paroles de Noël.
C'était tough, là, puis regarde, j'ai déclenché ça comme à fureur.
Fait qu'on fait ça sur les réseaux sociaux aujourd'hui, dans le cadre du 19 décembre. Vous nous écrivez cet après-midi où est la tasse dans Gravel en le retour et vous courez la chance de gagner un 100 $ chez Sebab.
Bonne chance. Puis en passant, qu'est-ce qui s'est passé avec ta voix, là? Elle a l'air un peu éraillée.
T'as-tu oh, elle me quitte. Non, mais elle est au courant que les vacances s'en viennent. On vous prépare une surprise pour demain. On est resté un peu plus tard hier, quelques membres de la gang de
Boulevard.
C'est ça
qu'on a vu sur le Twitch, là.
Oui. Ceux qui sont restés sur le Twitch hier ont vu la surprise. Fait que non, elle va être là demain. Je te dis pas qu'elle va être là à 100%, mais elle va être là, promis.
Là, tu parles de ta voix, là.
On revient dans quelques instants, vous êtes dans l'open mic.